Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, retour sur l'incident survenu à la centrale nucléaire de Blaye, en Gironde, dans la nuit du 27 au 28 décembre 1999, le jour où la France est passée à deux doigts de la catastrophe nucléaire. De cet événement, vous ne vous rappelez sûrement pas grand-chose, tant il est passé inaperçu dans le paysage médiatique, noyé à la fois dans le silence stratégique des autorités et dans l'inondation provoquée par la tempête du siècle, fin décembre 1999. Pourtant, de mémoire d'agent d'EDF à Blaye, on n'est jamais passé aussi près du drame ultime, la fusion d'un réacteur. L'incident au sein de cette centrale, située à 60 km seulement de Bordeaux, nous a placés concrètement face au risque inhérent de l'utilisation du nucléaire civil. Malgré toutes les normes et les mesures de protection en vigueur, qui sont nombreuses et sérieuses, celle du Blayais, son nom officiel, s'est retrouvée les pieds dans l'eau. Heureusement pour nous tous, malgré l'inondation de circuits vitaux, le plan d'alerte a bien fonctionné et a permis, nonobstant des dégâts considérables, d'éviter que l'incident ne se transforme en désastre. Alors, que s'est-il passé exactement à Blaye en cette nuit de décembre 1999? Quelles sont les responsabilités? Est-il possible de garantir la sûreté totale de nos sites malgré le dérèglement climatique? Notre invitée aujourd'hui, Marie Franchis, coordinatrice des questions juridiques à l'association Réseau Sortir du Nucléaire, dont l'intitulé affiche clairement la nature du combat. Vous entendrez également le reportage d'Arel Verzo qui s'est rendu à Dieppe auprès des riverains d'une centrale. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyenne Guyenne et Hélène Bizio.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
L'histoire de la maîtrise de l'atome demeure intrinsèquement liée à la culture scientifique de notre pays. Des premières observations d'Henri Becquerel à celles des premières expérimentations des époux Curie et de leurs descendants, les Joliot Curie, la France va très vite prendre place pour un voyage sans retour sur les chemins de la science atomique. C'est clair, l'ADN du nucléaire est français. C'est à la fin des années 50, sous l'impulsion du général de Gaulle, que l'atome devient un prestigieux symbole du renouveau pour le pays, tant d'un point de vue militaire qu'énergétique. Il faut dire qu'à ce moment-là, le monde a déjà basculé dans la guerre froide, opposition psychologique et militaire, où l'équilibre précaire entre l'Est et l'Ouest repose sur la toute-puissance de la dissuasion atomique. Dans ce contexte, la politique nucléaire de la France sera donc celle du général. Elle sera indépendante, sans partage et sans concession.
Il s'agit de savoir si nous aurons ou si nous n'aurons pas, nous aussi, de quoi nous défendre. Nous avons décidé d'avoir ce qu'il nous faut, et d'autant mieux et d'autant plus que cette puissance nucléaire, comme on dit, est liée directement à l'énergie atomique elle-même, qui est, comme vous le savez tous, le fond de l'activité de demain.
C'est dans le cadre de cette politique avant-gardiste, symbole de la toute-puissance française retrouvée, qu'on érige rapidement un plan pour doter l'Hexagone de quelques centrales nucléaires civiles. Des installations exploitées par EDF, sous contrôle du Commissariat à l'énergie atomique, le CEA, qui doivent répondre aux prévisions de demandes d'énergie croissante de la population dans les décennies à venir. Un engagement qui se traduit notamment en 1963 à Chinon, sur les bords de la Loire.
Les moins marquants de la progression industrielle française, les trois centrales nucléaires que l'Électricité de France édifie sur les bords de la Loire à Chinon ont reçu la visite de M. Georges Pompidou. Dans trois ans, ces trois centrales, EDF 1, EDF 2 et EDF 3, totaliseront une puissance de 600 000 kW. Cette visite constituait, si l'on peut dire, le morceau de choix du voyage d'information que le Premier ministre vient de faire en Touraine et qui devait lui donner l'occasion de rencontrer à Montlouis son prédécesseur à Matignon, M. Michel Debray, autour d'un verre de vin de la Loire, bien entendu.
Chinon, mais aussi Saint-Laurent-des-Eaux ou encore le Bugey, les sites se multiplient en conformité avec les prévisions toujours plus optimistes des statisticiens sur les besoins électriques. L'implantation des centrales nécessite la proximité de points d'eau pour le refroidissement du cœur des réacteurs. Or, elles s'organisent sans forcément prendre en compte les réalités du terrain, inondation possible des sols, présence de failles sismiques, zones considérées à risque. Et c'est ainsi que poussent-elles des champignons d'immenses réacteurs et des cheminées de béton de 150 mètres de haut qui viennent défigurer les paysages en Pays de Loire. Cet étonnant contraste entre besoins réels et nécessités hypothétiques est accentué par une autre réalité de l'époque, celle où le pétrole roi, toujours bon marché, continue d'alimenter les centrales conventionnelles, laissant à l'énergie nucléaire le soin de cohabiter avec lui à titre marginal ou complémentaire, pour l'instant. Il faut attendre le début des années 70 pour assister au véritable tournant dans l'évolution de la filière nucléaire. En effet, les débuts de la guerre du Kippour en octobre 73 et la flambée des prix du pétrole qui s'ensuit font prendre conscience aux pays occidentaux que le temps de l'énergie facile, illimitée et insouciante est terminé. En France, la population découvre les campagnes de publicité sur les économies d'énergie à la télévision. Celles-ci se succèdent avec des messages qui restent encore inscrits dans la mémoire collective.
En France, on a toutes sortes de choses. On a la meilleure cuisine du monde. Une industrie puissante. La pétanque. Une histoire glorieuse. On a aussi une situation géographique privilégiée. La tour Eiffel et la pêche à la ligne. Oui, en France, on a tout ça. Et bien plus encore. Pourtant, une chose nous manque. Une chose essentielle. Le pétrole. Le pétrole, nous sommes obligés de l'acheter à d'autres. Cher. Trop cher. En France, on n'a pas de pétrole. Mais on a des idées.
Et parmi ces idées qui vont progressivement germer, il y a celle qui consiste à remplacer la production d'électricité provenant des centrales au fioul par le nucléaire. Et sous l'impulsion du Premier ministre Pierre Messmer, ce choix va s'imposer sans débat parlementaire ni étude industrielle sur la question. Premier déni de démocratie, l'autre ADN de l'énergie atomique. Désormais, la dépendance au pétrole sera remplacée par l'addiction au nucléaire au nom de la raison d'État. À partir de 1974, la France entre dans deux décennies de folie constructive autour de ses centrales. Le nucléaire est devenu une religion d'État, dogmatique et défendue par toute une technocratie de plus en plus puissante, au cœur même du pouvoir. Ainsi, en l'espace de 20 ans, ce ne sont pas moins de 58 réacteurs qui vont être mis en chantier pour une moyenne de construction estimée entre 3 et 4 par an. Un chiffre astronomique pour un pays de la taille de la France et surtout par rapport aux besoins réels de sa consommation d'énergie. Du côté de la population, c'est selon. Il y a les Françaises et les Français qui y voient un réel progrès, puis il y a ceux que ce choix inquiète. Et ceux-là se font entendre un peu partout sur le territoire. Des petits mouvements de contestation se forment. On réclame la consultation des populations locales avant la décision de mettre le projet en chantier. Au fil des mois, la contestation s'organise, comme ici à Fessenheim en 1975, contre le projet de centrale.
Le Luxembourg est le seul pays au monde.
À Fessenheim, il y a 4 ans, ils étaient 1500 pour la première manifestation européenne contre l'énergie nucléaire. Hier, ils étaient 10 000 malgré le froid et le temps gris. 10 000 venus de toute l'Europe et partagés entre les discours des écologistes et des scientifiques et l'immense braderie installée aux abords de la scène principale. Car il fallait en profiter, c'était le dernier rassemblement du genre pour Fessenheim, une centrale déjà en travaux.
Après, nous passerons à d'autres formes d'action. Si nous n'obtenons pas gain de cause, c'est-à-dire si nous n'obtenons pas d'être considérés comme des citoyens à part entière, ayant droit à la discussion honnête et publique.
Quelles sont les autres formes d'action que vous pouvez envisager?
Alors, les autres formes d'action, je ne peux pas vous décrire tout. Nous resterons dans la ligne que nous nous sommes tracés, ce qu'on nomme généralement les moyens non violents. Nous ne comptons pas placer des bombes, etc.
Pour les manifestants, la véritable difficulté est d'arriver à concentrer leurs efforts sur un même site. Car sur le territoire, le scénario reste le même. Ici et là, se préparent à sortir de terre des centrales protégées par des cordons de CRS. À la télévision, on s'emploie à mettre en avant les bénéfices du nucléaire, quitte à minimiser les risques au profit de l'emploi, de l'énergie et du modèle économique. outre les populations, la contestation va vite mobiliser des maires, des agriculteurs ou encore des personnalités de la vie publique, que ce soit en Bretagne, dans les Ardennes ou encore dans le sud de la France, mais aussi à l'échelle européenne, principalement chez le voisin ouest-allemand. Pour tous, il ne s'agit pas de s'opposer avec fracas au lobby politico-nucléaire, mais plutôt de demander des moratoires, des échanges, des discussions sur le sujet. Dialoguer, oui. Imposer, non. Progressivement, on assiste à des altercations de plus en plus fortes entre manifestants pacifiques et forces de l'ordre chargées d'assurer la protection des sites en construction. À Crémalville, dans la région lyonnaise, en 1977, ce combat coûtera même la vie à un homme de 31 ans, Vital Michalon, tué par le souffle d'une grenade offensive lancée par les CRS. Il avait dit non au projet de surgénérateur Super Phoenix, qui se révélera des années plus tard être un échec technologique majeur. Et puis, en 1979, intervient l'accident de la centrale de Three Mile Islands aux États-Unis. Preuve indéniable que malgré les procédures de contrôle, un accident est toujours possible et qui peut se révéler catastrophique. C'est cet incident qui va conduire les États-Unis à abandonner la construction de nouvelles centrales nucléaires. Pourtant, malgré cette première preuve mondiale du risque nucléaire, le président français, à l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, tente de convaincre l'opinion du bien fondé de la démarche française. Il est accueilli par les sifflets, comme ici à Valogne, au mois de décembre 80.
La France a engagé un programme électronucléaire qui est un programme électronucléaire dont personne ne peut faire oublier ici qu'il est approuvé à la fois par le Parlement et par l'immense majorité de la population française. Et notamment par les travailleurs et par les jeunes, qui savent parfaitement qu'il n'y aura pas d'emploi en France en l'an 2000 si nous ne disposons pas d'une source d'énergie indépendante.
Indépendance, oui, sauf que le processus passe aussi par l'Afrique. Le combustible nécessaire à la production d'énergie atomique, le fameux uranium, doit être en effet importé du continent noir, principalement du Niger. Si bien que le discours optimiste du président sur les atouts économiques du nucléaire ne convainc pas tout le monde. Alors en coulisses, les lobbies du nucléaire, que sont EDF, le CEA, mais aussi la Cogema et Framatome, entrent en action. On l'appelle la nucléocratie. En 1981, l'arrivée de la gauche au pouvoir est porteuse des plus grands espoirs dans les courants écologistes. Car pendant sa campagne, celui qui se dit partisan de la force tranquille et de l'apaisement a clairement affiché sa position sur le nucléaire.
J'ai été attaqué récemment par le président de la République sortant, je ne sais comment l'appeler, finissant, qui précisément se flattait d'avoir assuré mieux que quiconque cette indépendance énergétique assortie dans son cas d'une politique dite tout nucléaire. J'entends réserver mon jugement et je dis très simplement, au risque de déplaire là où je m'adresse à des publics comme ceux-ci, ce qui est le cas tous les soirs, que j'entends terminer les centrales en construction, que je n'entends pas mettre en œuvre celles qui ne le sont pas, et que Plogoff ne figure pas et ne figurera pas dans mon plan nucléaire.
Plogoff et son projet de centrale sera donc abandonné, comme l'avait promis François Mitterrand. Il faudra cependant pour les écologistes admettre les trains de déchets nucléaires qui vont désormais traverser la France. La gauche a ralenti la machine, mais ne compte pas pour autant s'écarter de la voie tracée par ses prédécesseurs. Aussi, du côté de Braux et Saint-Louis, en Gironde, à 60 km de Bordeaux, les habitants veulent-ils devoir s'habituer à la réalisation d'un projet contre lequel ils ont pourtant beaucoup lutté, celui de la centrale du Blayais. Une centrale qui, on va le voir, va frôler la catastrophe pendant la tempête de l'hiver 1999.
Chernobyl, Chernobyl.
Située à 60 km de Bordeaux, sur la rive droite de l'estuaire de la Gironde, la centrale nucléaire du Blayais s'étend sur une superficie de 227 hectares, soit la taille de 42 terrains de football. Elle a été construite au cœur d'un marais rural où certaines espèces sont protégées et où, plus grave, les risques d'inondation sont connus. Mise en service le 21 juin 1981, la centrale alimente la région et le bassin aquitain en électricité grâce à ses 4 réacteurs à eau pressurisée développant une puissance totale de 3600 kWh, ce qui représente près de 2 fois les besoins de la région en électricité, à les comprendre. Sur place, 1300 agents travaillent pour EDF, force à laquelle il faut ajouter 700 prestataires. C'est donc une source d'emploi importante. Mais à Blaye, plus qu'ailleurs, on veut surtout montrer le côté infaillible de la centrale. Les médias sont donc souvent invités à participer à des visites guidées qui tentent à prouver l'inviolabilité du site. Démonstration ici avec Jean-Louis Douance, ingénieur en charge de la radioprotection.
Bon, ici nous arrivons donc à la salle de commande du bâtiment auxiliaire nucléaire, et ici c'est un peu la gare de triage de tous les effluents. Ouais. Donc tous les effluents radioactifs, vous avez un synoptique donc, qui vous donne le cheminement de tous les effluents. Les effluents donc, du circuit primaire sont en général triés, donc récupérés et réinjectés dans le circuit primaire quand on en a besoin.
C'est-à-dire que s'il y a quoi que ce soit qui se passe à un moment, à un quelconque endroit de la centrale, immédiatement vous le savez.
Immédiatement ici on le sait.
Voilà, là on se trouve devant l'entrée du SAS du réacteur. Personne n'entre.
Derrière, personne ne rentre. On n'a pas besoin de faire une surveillance visuelle de tout le matériel qu'il y a à l'intérieur. On ne rentre que lorsque le réacteur est en arrêt à froid, donc c'est un terme, disons, de chez nous, et la pression est à la pression atmosphérique et la température est inférieure à 90 degrés.
En tout cas, là, on se trouve, nous, dans la situation la plus proche du réacteur.
Oui.
Alors, est-ce qu'on peut mesurer éventuellement la radioactivité?
La mesure de radioactivité avec l'appareil que je tiens dans ma main, je suis sur l'échelle la plus faible et on se rend compte que l'aiguille ne dévie pas.
Une aiguille qui ne dévie pas, comprenez ici une radioactivité zéro. D'un point de vue de la sûreté, après l'incident de Three Mile Island, on veut montrer qu'ici à Blaye, tout est fait pour garantir la fiabilité du site. Mais les écologistes ne baissent pas les bras. Au milieu des années 80, plusieurs événements vont venir relancer la polémique. Tout d'abord Tchernobyl, bien sûr, en 1986, catastrophe sans précédent à l'origine d'un mensonge d'autant plus grand en France qu'il est un mensonge d'État. Cet épisode, vous vous en souvenez sûrement, c'est celui du professeur Pierre Pellerin qui affirmait alors à tous ceux qui voulaient bien le recevoir sur leur plateau de télé que le nuage radioactif provenant d'Ukraine ne passerait pas sur la France et qu'il ne fallait donc pas s'inquiéter. 29 ans plus tard, on sait que ce nuage a traversé le territoire, principalement à l'est, et sur la Corse, contaminant sur son passage ses cultures et sa flore. Une triste vérité qui n'a fait que renforcer le doute des populations. Doute face au danger réel ou supposé de l'énergie nucléaire et doute également sur la parole de l'État accusé de cacher la vérité. Et puis en 1987, il y a cette étonnante affaire que va révéler le canard enchaîné qui bat en brèche l'idée reçue sur la sécurité des centrales. Des agents de la DGSE, notre service d'espionnage, ont réussi à s'introduire dans les centrales françaises dans le cadre d'exercices commando et ont réalisé des manœuvres destinées à nuire à l'édifice ou à son fonctionnement. En 1990, ce sont les écologistes de Bordeaux qui frappent un grand coup en présentant les plans de la centrale de Blaye qu'ils ont réussi à se procurer. Leur but est bien de prouver que la sécurité des sites nucléaires laisse à désirer, comme le dit leur représentant et adjoint au maire de Bordeaux, Michel Duchesne, au micro de France Inter.
Nous avons voulu montrer que des plans d'une centrale nucléaire, des plans qui comportent les chemins d'accès au cœur même du réacteur, peuvent être diffusés dans le grand public, ou du moins qu'on peut les avoir relativement facilement. Ça nous paraît grave, car ça prouve que les centrales nucléaires ne sont pas fiables au niveau de la sécurité. Nous le savions déjà pour ce qui est du fonctionnement normal, mais pour ce qui est de la sécurité au niveau de l'entrée, ce n'est pas le cas. Contrairement à ce qu'a dit le directeur de la centrale en affirmant que ces plans n'étaient pas importants, tout d'un coup aujourd'hui le parquet se réveille, de manière très rapide d'ailleurs, puisque on nous a prévenu que nous devions rendre immédiatement les plans, sinon nous allions subir des perquisitions. Nous voulions rendre ces plans de toute façon. Effectivement, ces plans sont très importants, le grand public peut les avoir et la sécurité des centrales n'est pas assurée.
La sécurité semble d'autant moins assurée qu'en 1995, on découvre au cœur même du site du Blaye, alors occupé par un conflit social, une tentative de sabotage, heureusement sans gravité. Mais le grand paradoxe du début des années 90, ce sont ces nombreux rapports, qu'ils soient industriels ou parlementaires, sur le nucléaire. Des rapports dans lesquels leurs auteurs ne ménagent pas EDF, qui a, selon eux, construit trop de centrales et qui a mal calculé ses prévisions de demande d'électricité. Ce à quoi EDF répond que oui, il y a eu des erreurs dans la gestion du parc nucléaire, mais que l'on peut s'estimer optimiste pour la décennie 2000. Bref, dormez tranquille. À ce moment précis, personne n'imagine qu'à quelques jours de l'an 2000, tout aurait pu basculer. Dans la nuit du 27 au 28 décembre 1999, la météo se déchaîne sur tout le territoire métropolitain. Une tempête balaye le littoral atlantique avec des vents d'une violence jamais vue, près de 200 km/h par endroit. En Gironde, comme ailleurs en France, la population fait face à la tempête du siècle. Les rivières débordent de leurs lits, les lignes électriques sont détruites, des arbres arrachés, les moyens de communication interrompus. En l'espace d'une nuit, ce ne sont pas moins de 2 millions de personnes qui se retrouvent sans électricité et parfois les pieds dans l'eau. De son côté, les communes de Braux et Saint-Louis, où se situe la centrale de Blaye, n'échappent pas à la règle. Dans cette zone marécageuse, l'eau monte de près de 60 cm par endroit. Puis, dans un élan ininterrompu, l'eau de l'estuaire de la Gironde finit par faire céder la digue de protection autour de la centrale, la coupant ainsi de la route qui permet de la relier au reste de la zone. Dans le quart d'heure qui suit, les sous-sols du site nucléaire sont inondés par une déferlante d'eau salée. Les installations de 3 de ces réacteurs sont touchées. Les agents d'EDF sur place constatent que 2 circuits de sauvegarde sont hors d'usage, notamment celui qui permet de faire baisser la température en cas d'accident. Le refroidissement des cuves, pilier de la sûreté nucléaire, est menacé. Plus grave encore, cet événement engendre la mise hors service de 2 des 4 pompes du circuit de refroidissement du réacteur numéro 1, organes vitaux pour la centrale, car ce sont elles qui sont chargées d'empêcher toute fusion du cœur, ce qui provoquerait une catastrophe comme celle de Three Mile Island ou de Tchernobyl. L'information gardée secrète ne sera révélée qu'une semaine plus tard par le quotidien Sud-Ouest. À la cellule de crise mise en place pour l'occasion, le préfet délégué à la sécurité de la Gironde, Jacques Géraud, parce qu'il est préfet, tente de rassurer.
On n'a jamais, pour répondre très clairement à votre question, été dans une hypothèse d'évacuation de la population. Il ne faut quand même pas négliger la vérité. C'est-à-dire qu'on a été en alerte numéro 2 dans l'échelle des incidents nucléaires et que donc la situation était un peu préoccupante.
Enfin, tout le monde ne partage pas la même analyse sur la gravité de l'accident. Du côté des populations et surtout des associations, on s'insurge du manque de transparence d'EDF et des autorités. La tempête et l'inondation se sont déroulées à marée basse et ont fait déborder la digue construite en théorie pour résister à une crue millénaire. Que se serait-il donc passé si la marée avait été haute ? Pour Jean-Pierre Dufour, physicien nucléaire, membre des Verts, on a bel et bien échappé de peu à la catastrophe.
On était plutôt au niveau 4, c'est-à-dire très sérieux. Donc on a couru un risque tout à fait important.
D'accord, de quel type ce risque ?
Ah ben le risque c'est qu'effectivement on perde le contrôle du cœur du réacteur, qu'il fonde, et à partir de ce moment-là, il ne peut plus y avoir de contrôle, il fond, et on est dans une situation d'accident plus ou moins contrôlée.
Après la tempête, l'autorité de sûreté nucléaire, la SN, reprochera à EDF de s'être basée sur des hypothèses d'agression naturelle beaucoup trop optimistes lors de la construction de la centrale. En conséquence, la SN demande à EDF de rehausser la digue et de revoir sa copie sur la conception du risque. Quelques jours plus tard, l'hebdomadaire Le Point jette un pavé dans la mare. Il publie dans son numéro du 14 janvier les extraits d'une lettre provenant de la DRIR, Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement, gendarme en la matière, et dans laquelle on peut lire que depuis le 19 novembre, il a été demandé à EDF de procéder à la modification de la digue dans les délais les plus brefs pour parer à toute éventualité. Pire encore, 2 ans auparavant, une note technique du service de l'équipement d'EDF dans le bilan annuel de sûreté de la centrale préconisait déjà de modifier la digue pour relever sa hauteur de 50 cm. Il faudra attendre 2 ans et un accident qui aurait pu se révéler dramatique pour qu'enfin on agisse sur ce point. Pour les associations antinucléaires, cette révélation est un aveu, celui de tout un système qui n'est pas capable de gérer le danger qu'il concentre entre ses mains. Dans les semaines qui suivent, alors que l'on se rapproche de la date anniversaire de Tchernobyl, de grands rassemblements sont organisés pour protester à proximité de la centrale. Manifestants pacifiques contre gaz lacrymogène des gendarmes mobiles, on connaît la chanson. Pour Stéphane Lhomme, président de l'association Tchernoblaï, un collectif girondin pour la sortie du nucléaire créé quelques jours seulement avant l'incident et qui entend mobiliser et informer la population sur les risques inhérents à conserver une centrale nucléaire dans son voisinage, les incidents à répétition font du site du Blayais, centrale vieille de 19 ans en l'an 2000, un site dangereux qu'il faut fermer. Malgré cette mobilisation, EDF n'entend pas mettre à l'arrêt le site avant 2020-2025. Dans le même cas que Blaye, on trouve la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux, où un incident dramatique en 80 avait conduit à une fusion partielle du cœur du réacteur, le plus grave incident nucléaire jamais répertorié en France. Mais il y a aussi Chinon, Dampierre, menacée elle aussi par les crues intempestives de la Loire, car installée en zone inondable. De son côté, la centrale de Fessenheim en Alsace est placée sur une faille sismique. Si Alexis de Tocqueville était encore en vie, peut-être nous dirait-il que nous nous endormons sur un volcan. Saurions-nous l'écouter ?
Shit up. DP, GC, my nigga turn that shit up. CPT, LBC, yeah we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Thug niggas, drug dealers, yeah they giving it up. Low life, yo life, boy we living it up. Taking chances while we dancing in the party for sure. Slipped my hoe with 44 when she got in the back door. Bitches looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this motherfucker just to swing in my hair. Bitch, quit talking, quit walk if you down with the set. Take a bullet with some dick and take this dope on this jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if your ass get cracked, bitch, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the ass, you'll be relieving your stress.
It's the motherfucking D.R.E.
Dr. Dre, motherfucker.
You know I'm mobbing with the D-O-double-G. Straight off the fucking streets of CPT. King up the beach, you ride to him in your fleet. Whoop, the field rolling on dubs. How you feel? Whoop-de-whoop, nigga, what? Dre and Snoop chronic down in the lag. With Doc in the back, sipping on yak. Clipping the strap, dipping through hoods. Compton, Long Beach, Inglewood. South Central out to the west side. This California love, this California bug. Got a nigga gang of pub. I'm on one, I might bell up in the Century Club. With my jeans on, and my team strong. Get my drink on, and my smoke on. Then go home with something to poke on.
What's up, bitch?
Locust on for the 2000. Coming real, it's the next episode.
Hold up. All my niggas who be thinking we soft, we don't play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up, hey. All my niggas who be acting too bold, take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey, smoke weed every day.
Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'incident nucléaire de la centrale de Blaye avec notre invitée Marie Frachis. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes juriste spécialisée en droit nucléaire et environnemental. Vous occupez depuis septembre 2011 le poste de coordinatrice des questions juridiques au sein de l'association Réseau Sortir du Nucléaire et vous avez participé à la rédaction du livre L'opposition citoyenne au projet CIGEO, rédigé par un collectif d'auteurs sous la direction du professeur Pierre Ginet, géographe. Le livre est publié aux éditions L'Harmattan. Bien, alors à la centrale de Blaye, en cette fin du mois de décembre 99, on est donc passé, et au dire des personnels d'EDF, tout près de la catastrophe. Alors, on n'a rien dit de cet incident, ou presque, au moment, parce que le dogme de la France, pour l'instant, c'est de dire, oui, effectivement, on a beaucoup d'installations nucléaires, mais c'est jamais rien passé. C'est d'ailleurs ce que disaient les Japonais avant le 11 mars 2011. Mais aucune décision majeure n'a été prise pourtant après cet incident pour cette centrale et pour d'autres centrales. Pourquoi ? C'est un déni de réalité ? Qu'est-ce que c'est ?
Alors c'est vrai qu'en France, il y a une espèce de religion du nucléaire. Et c'est vrai que quand on parle du nucléaire, c'est tout de suite un sujet très sensible.
Oui.
Nous, on y est confrontés au quotidien. Et du coup, on s'aperçoit que c'est très difficile d'obtenir des avancées en la matière, des avancées politiques pour obtenir des décisions de sortie du nucléaire. Parce qu'on sait qu'on y est rentré à un moment donné, qu'on a mis en place des installations qui ont une durée de vie. Qui ont été construites pour une trentaine d'années, voire une quarantaine d'années. Mais on sait qu'à un moment donné, elles vont arriver en fin de vie et qu'il va falloir envisager de passer à autre chose. Or, aujourd'hui en France, c'est pas du tout les choix politiques qui sont faits. On voit très clairement que les dernières décisions politiques en la matière ont plutôt tendance à aller dans le sens, on réinvestit massivement dans le nucléaire et on recrée de nouvelles installations. Or, il s'avère que le nucléaire n'est pas une solution et que la France reste le pays le plus nucléarisé au monde et qu'on est l'un des rares pays à faire ce choix-là.
Et puis dans un pays démocratique comme la France, comment une telle politique du secret soit si active ? Alors bien sûr, il existe les CLIN, comités locaux d'information sur le nucléaire, donc avec les populations, notamment riveraines des centrales. Il existe l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Il existe l'ASN, l'Autorité de sûreté nucléaire, qui donne d'ailleurs des informations sur leur site. Donc c'est pas tout n'est pas complètement caché, mais la population ne peut pas prendre la moindre décision, même à travers les clins. Est-ce qu'on assiste là à un déni de démocratie ?
Alors, on peut parler de déni de démocratie. Tout simplement, le nucléaire, c'est pas un choix de la population. Il a été imposé. Donc, à partir de là, c'est très compliqué de revenir dessus. Alors, effectivement, comme vous le dites, il y a ce qu'on appelle les CLI, les commissions locales d'information, qui sont instituées auprès de chaque site nucléaire. Le problème, c'est que dans ces organes, il y a seulement des élus, des représentants de l'exploitant. Alors effectivement, il y a quelques places qui sont réservées aux associations, mais ça reste vraiment minime. Et ce sont souvent des organes qui ont très peu de moyens de fonctionnement, qui du coup sont soumises uniquement au discours de l'exploitant et qui du coup ont très peu de prise pour agir. À côté de ça, on a une loi. Alors il y a eu une évolution de la réglementation en matière nucléaire, puisque au départ, c'était une matière qui était très peu réglementée. Mais en 2006, on a eu la loi transparence. Et sécurité nucléaire, le beau terme de transparence qui est vanté souvent en matière nucléaire. Alors c'est une loi qui s'applique pour le nucléaire civil et ce texte permet notamment à tout un chacun de demander à un exploitant des informations sur son installation nucléaire parce que l'exploitant est le premier débiteur de l'information en matière de sûreté nucléaire. À côté de ça, on peut aussi interroger l'autorité de sûreté nucléaire.
Est-ce qu'elle est indépendante ? Parce que le vrai problème de l'ASN et de l'IRSN, peut-être, je n'affirme strictement rien, c'est l'indépendance. Est-ce que ce sont des organes indépendants ? Même s'ils ont été nommés par le gouvernement, l'IRSN avait été créé par Dominique Voynet, je crois, au sein du gouvernement Jospin, à l'époque, pour qu'il y ait un service public indépendant des décisions du gouvernement. Est-ce que c'est un mythe ? Est-ce que c'est de la poudre aux yeux ? Ou est-ce qu'ils ont une certaine indépendance ?
Alors, officiellement, l'autorité de sûreté nucléaire, c'est une autorité administrative indépendante. Donc, elle est censée, effectivement, être indépendante. Le problème, c'est qu'elle est prise entre plusieurs feux. Déjà, elle a vraiment un manque de moyens. Ça, c'est évident. Ce qui fait qu'elle est très dépendante du discours de l'exploitant qui, puisqu'on fonctionne sur un système déclaratif, c'est-à-dire que c'est l'exploitant qui va, du coup, déclarer à l'autorité de sûreté nucléaire lorsqu'il va y avoir des problèmes sur son site. Et du coup, l'autorité de sûreté va effectivement procéder à certaines vérifications. Elle va parfois se rendre sur les sites nucléaires pour, du coup, vérifier les informations qui lui sont transmises. Mais ça reste, elle fait ce qu'elle peut avec les moyens dont elle dispose, qui sont extrêmement limités. Et à côté de ça, elle va être parfois prise entre plusieurs feux, entre les demandes politiques, sa volonté de faire passer avant tout la question de la sûreté, et puis les intérêts économiques.
Bien sûr.
Et on l'a vu très clairement sur la question de la cuve de l'EPR de Flamanville, puisque je ne sais pas comment vous avez des informations à ce sujet, mais en tout cas la cuve de l'EPR aujourd'hui est une cuve qui est fabriquée dans un acier pour son couvercle et pour son fond de cuve qui est défectueux. Malgré ça, l'autorité de sûreté nucléaire a quand même autorisé sa mise en service parce que, très clairement, la recapitalisation d'Areva était conditionnée à ce que cette cuve soit validée. Donc à partir de là, l'autorité de sûreté nucléaire, son indépendance, elle reste dans une moindre mesure.
Bien sûr. Alors après Tchernobyl, on a dit oui, mais c'est pas les mêmes centrales, la même technologie que chez nous. C'est des centrales de type MBK. Chez nous, on utilise une technologie à eau pressurisée, au Japon à eau bouillante. Et on s'est dit, ben voilà, c'est forcément plus sûr cette technologie que celle de Tchernobyl. Est-ce qu'on va pouvoir se reposer longtemps sur cette certitude entre guillemets?
Alors c'est bien sûr pas le cas, l'accident du Blayais nous le montre, on est passé quand même à deux doigts de la catastrophe. Les deux pompes qui ont permis d'assurer le refroidissement de la centrale ont bien fonctionné, heureusement. Les circuits de secours ont bien fonctionné à ce moment-là, mais il faut dire qu'on se situait juste avant le bug, l'an 2000, le passage à l'an 2000, et donc avec la crainte du bug de l'an 2000, il y avait un certain nombre de vérifications qui avaient été faites par anticipation, et ce qui fait que tout a bien fonctionné et qu'on a pu éviter la catastrophe. Le souci, c'est qu'on peut s'imaginer que dans certaines circonstances, ce ne soit pas forcément le cas. Effectivement, on n'est pas sur le même type de réacteur qu'à Tchernobyl ou qu'à Fukushima. Nous, on a des enceintes de confinement qui sont autour du réacteur, qui sont une barrière de défense. Sauf que on s'aperçoit que parfois l'accumulation d'aléas climatiques peut créer une véritable catastrophe et c'est très difficile en matière de nucléaire de tout anticiper.
Alors je précise que les réacteurs à eau pressurisée utilisent des modérateurs. En revanche, on a un RNR, un réacteur à neutrons rapides, qui lui n'utilise pas de modérateur, qui cherche à exploiter de la façon la plus complète possible les propriétés du combustible. Et c'était le cas du réacteur Phoenix. Alors, après Fukushima, il y a eu ce qu'on appelle des crash tests. Hein. On a testé les centrales nucléaires pour voir leur résistance à des phénomènes climatiques dangereux comme celui du Japon. Qu'ont donné ces crash tests finalement? Parce qu'il y a eu un effet d'annonce, hein. On a beaucoup parlé et puis après un peu moins.
Tout à fait. Alors le terme qui a été employé par les professionnels du nucléaire, nous allons dire ça, c'est les évaluations complémentaires de sûreté, donc qui ont été menées sur l'ensemble du parc nucléaire français pour apprécier justement leur résistance à des agressions externes et à l'accumulation potentielle d'agressions externes. Du coup, ce qui a été ensuite demandé par l'autorité de sûreté nucléaire, c'est un certain nombre de mesures pour prévenir l'accumulation potentielle d'agressions externes. Et notamment, a été demandé la mise en place de diesel d'ultime secours, on appelle DUS dans le jargon, qui du coup sont censés être installés sur l'ensemble de nos centrales nucléaires, qui sont des diesels qui pourraient produire de l'électricité en cas de perte totale des sources d'approvisionnement électrique sur les centrales et qui seraient placés dans des bâtiments bunkerisés, donc censés résister à tout type d'aléas climatiques. EDF était censé mettre en place ces sources d'approvisionnement d'ici le 31 décembre 2018. Or,
ça y est,
c'est déjà dépassé. Et EDF, en fait, s'est retrouvé au dernier moment à devoir demander à l'ASN un report de cette échéance parce qu'elle n'était pas en capacité de mettre en place ces installations sur les sites. Alors, il y a seulement à Saint-Laurent-des-Eaux qu'a été installé ce type d'équipement. Mais pour l'instant, c'est encore en cours sur l'ensemble des centrales nucléaires. Et donc, on s'est retrouvé un industriel va du coup dicter ses choix et son calendrier à la sûreté. Et c'est pas la sûreté, du coup, qui s'impose, en fait, aux exploitants. Et c'est bien trop souvent le cas en matière nucléaire.
Quel est le plus grand danger, finalement, en termes de sûreté? Je parle pas de sécurité. La sécurité, ça prend en compte un autre concept. C'est la sécurité, c'est comment lutter, par exemple, contre un attentat, un avion qui se jetterait sur une centrale. On est dans la sûreté. Donc, ce sont les problèmes endogènes d'une centrale. C'est quoi, à votre avis, le danger le plus important? C'est le vieillissement des centrales? C'est le danger sismique ou c'est le danger climatique, comme les tempêtes, ou tout à la fois?
C'est un peu tout à la fois. Je pense que, enfin, c'est très difficile de vous donner un avis tranché sur la question.
Bien sûr.
De toute façon, on est dans un contexte de réchauffement climatique. On sait qu'il va y avoir de plus en plus d'événements externes, d'agressions externes qui vont se produire. Alors, ça peut être effectivement des tempêtes, mais ça peut aussi être des sécheresses, des canicules. Or, nos centrales nucléaires, elles ont un besoin de refroidissement permanent. Ce qui fait qu'elles vont, du coup, pomper de l'eau dans nos fleuves. Et lorsqu'elles fonctionnent en circuit ouvert, eh bien, en plus, elles recrachent cette eau à une température élevée dans les cours d'eau avoisinants. Ce qui fait que lorsqu'on est en période de sécheresse extrême, la température des cours d'eau augmente et avec, du coup, un impact nécessaire sur le milieu aquatique, sur la faune et la flore qui contiennent. Et plus il va y avoir des épisodes d'extrême chaleur, et plus cette question va se poser. Et donc, on est déjà régulièrement confronté à EDF qui va faire des demandes à l'autorité de sûreté nucléaire pour modifier, pour demander une dérogation exceptionnelle de son arrêté de rejet, pour pouvoir du coup dépasser les seuils qui sont normalement admis par rapport à cette question de température des cours d'eau. Et donc, dans un contexte de réchauffement climatique, on peut imaginer que la problématique va d'autant plus se poser.
Alors, concernant cette pollution quotidienne, ces rejets de radionucléides un peu partout dans notre environnement et notamment dans les cours d'eau, on va écouter l'interview d'Alain Correa, membre d'une commission d'information sur le nucléaire, un clin. Annel Verzo, notre reporter, l'a rencontré à Nelodan, un village voisin de Neuchâtel-en-Braye, où l'on produit un délicieux fromage, et qui dit fromage dit lait, et qui dit lait dit gros problème en cas d'accident nucléaire. Le lait fait partie des denrées rapidement et hautement contaminables. C'est pourquoi, dans un livre blanc paru en fin 2015 sur la gestion de crise post-accident nucléaire, l'Association nationale des comités et commissions locales d'information suggère que le choix des terres pour l'épandage du lait contaminé soit fait de façon démocratique. On écoute ça.
Excusez-moi, on cherche la ferme de Muriel.
C'est
la ferme
de fromage ?
Oui.
On vient de passer devant, c'est ça ? Enfin, un peu plus haut ? Juste en face, d'accord.
Oui. Oui, c'est un producteur.
Bon, okay. Merci madame.
Merci beaucoup.
Ah, c'est une dame qui est en train de faire son jardin. Je me trouve à côté de Neufchâtel en Bray, dans un petit village qui s'appelle
Nelodang.
Et on se trouve à peu près à 30 km de... Enfin, il y a deux centrales nucléaires qui sont pas très loin.
Il y a 6 réacteurs nucléaires, 2 à Penly et 4 à Paluel. Ça fait 6 en tout.
C'est Alain Correa. Militant anti-nucléaire.
Ouais, militant anti-nucléaire, oui. Membre de la CLIN, donc la Commission locale d'information sur le nucléaire, des centrales de Paluel, Penly, Dieppe.
Là, on va se rendre chez un producteur de fromage de Neufchâtel qui a accepté de nous recevoir pour qu'on lui soumette un questionnaire.
Pour savoir s'ils sont d'accord pour recevoir du lait contaminé et les épandre dans leur champ.
Voilà, on arrive là, ça doit être Muriel.
Oui, bonjour, vous êtes Muriel ?
Bonjour. Bonjour, Annaël, enchantée.
Bonjour, Alain, monsieur le fils.
Donc on est autour d'une table et c'est vos trois fils.
Mes trois fils.
Alors ici c'est une ferme qui produit du fromage.
Oui, du fromage de Neuchâtel.
Bah là nous on a 150 vaches laitières sur 180 hectares, on transforme toute la production en fromage de Neuchâtel. Le nucléaire on peut pas trop s'en passer.
Alors justement, Alain, vous avez une question par rapport au nucléaire.
Alors, dans le livre blanc sur la gestion accidentelle et post-accidentelle, il y a une recommandation de demander à des agriculteurs s'ils seraient d'accord pour épandre dans leurs champs du lait contaminé. Parce qu'en cas d'accident nucléaire, tout l'environnement, là où il y a les retombées, sera contaminé avec différents radioéléments. Donc les vaches vont brouter l'herbe qui sera contaminée et donc par voie de conséquence, le lait sera contaminé. Donc impropre à la consommation. Et donc l'objectif, c'est, comme on ne peut pas conserver ce lait, on le détruit, et pour le détruire, on l'épand dans les champs. Alors, est-ce que vous seriez d'accord pour épandre ce lait contaminé dans vos champs ?
Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord.
Mais si on épandait le lait, comme vous dites, sur les terres, on contamine les terres, et pour combien d'années ? Parce qu'après, on ne peut plus s'en servir de ces terres-là. Donc, on ne peut plus nourrir les vaches.
Vous en avez parlé ou pas dans le livre blanc, Alain ?
On n'a pas évoqué, mais...
Le livre, il est blanc, mais... tout est écrit.
Oui, oui, complètement. Alors là, complètement, ça, il ne s'appelle pas livre blanc pour rien. Vous posez les bonnes questions.
Ah bon, il n'y a pas forcément que le nucléaire. Nous, là, en Seine-Maritime, il y a eu une fuite, un mélange de gaz chez Lubrizol. Nous, je vous jure, la nuit, tout le monde s'est réveillé. On croyait qu'il y avait fuite de gaz dans les maisons. C'était infernal. À nous,
Servier avec les yeux en pleurs et puis
on
tout.
On dirait qu'est-ce qui se passe. Et puis bon, on aurait pu être tous gazés.
Donc, servier d'urgence, t'appelles, tout est saturé, tu sais pas quoi faire. On était un peu perdus.
Ouais. Vous l'avez senti, la seule différence, c'est que vous le sentez. C'était une fuite de mercaptan. Le mercaptan, c'est ce qu'on met dans le gaz pour le rendre malodorant. Tout le monde l'a senti, je veux dire, Rouen, Paris, le sud de Londres, tout le monde l'a senti. Et le problème, c'est qu'avec le nucléaire, on le sent pas. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on diffuse du mercaptan lors des fuites en cas d'accident nucléaire, où justement, ça permettrait de localiser le nuage radioactif.
Mais est-ce que la Terre n'a déjà pas de la contamination qui arrive petit à petit, vu qu'on ne nous dit rien, ça, c'est pareil.
Non, c'est vrai que le système des rejets, c'est vrai que certains y pensent.
On ne sait pas.
Parce que par rapport aux autres coins de la France, on est quand même un peu plus concernés.
Vous n'avez pas eu de pastilles d'iode ici ?
Non. Ça s'arrêtait à Londinière, à une dizaine de kilomètres d'ici. C'était un cercle autour, 30 km autour, je crois. Mais ça n'a pas dépassé les 30 km.
Ils considèrent qu'après...
Après, il n'y a plus de risque.
Moi, personnellement, je préférais une grosse éolienne pas loin de chez moi que tout ça.
Finalement, on préférait l'éolienne au nucléaire.
Après, moi, je vois pas trop le problème. L'éolienne, elle tourne avec le vent, elle n'arrêtera jamais de tourner. Ou sinon, après, si on veut plus de nucléaire, il faut peut-être se pencher un peu sur ce que faisaient les anciens, les moulins à eau.
Voilà, une autre version du bon sens près de chez vous. Qu'est-ce que ça vous inspire, Marie-Frangis, ce que vous venez d'entendre ?
Alors, c'est vrai que, d'une part, si effectivement on met en parallèle la carte de nos installations nucléaires et de nos centrales et la carte de nos produits du terroir, de nos vins, de tout ça, on voit très clairement que s'il y avait un accident nucléaire en France, on aurait forcément des produits qui seraient impactés et donc, du coup, forcément des conséquences aussi en termes économiques. Au-delà de ça, il est évoqué dans le reportage la question de la distribution des pastilles d'iode.
Oui.
Donc, depuis août 2018, il a été étendu le périmètre de ce qu'on appelle les plans particuliers d'intervention, donc qui sont les plans locaux de gestion de crise en matière nucléaire et qui sont mis en place et qui prévoient notamment la gestion des secours lorsqu'il y a un accident nucléaire qui survient. Et dans le périmètre de ces plans sont distribuées les pastilles d'iode, donc qui sont censées permettre d'éviter au maximum des retombées sur la santé d'un accident nucléaire. On nous vend ça comme le remède miracle à une catastrophe, sauf qu'en fait, ces pastilles d'iode, ce qu'il faut savoir, c'est que ça permet effectivement de protéger de l'iode radioactif, mais lorsqu'il y a un accident nucléaire, il n'y a pas seulement de l'iode radioactif qui est rejeté, il y a tout un tas d'autres radioéléments, et ça ne nous permettrait pas de nous protéger de ça.
Alors, l'autre grand problème du nucléaire, ce sont les déchets, évidemment. C'est-à-dire qu'on a pensé à une industrie sans penser ce qu'on allait faire des déchets générés par la dite industrie. Tout ça, c'est absurde, déjà. Maintenant, on a ce fardeau. Qu'est-ce qu'on fait ? La politique de la France a été le choix dit d'enfouissement en couches géologiques profondes, et donc à Bure, mais Bure n'est pas en service. Il y a un facsimilé de Bure qui se trouve à Tournemire, dans le sud de la France, où des chercheurs voient comment ils peuvent enfouir. La technique, c'est l'argile, pour l'instant. Bon, et on en fait quoi des déchets avant que ça soit en service, tout ça ? Qu'est-ce qu'on fait des déchets ? On les met, ils sont où, concrètement ?
Alors c'est vrai que cette question des déchets, c'est quand même assez fou parce qu'on ne s'est pas posé la question au moment où on a créé les centrales nucléaires. Ça vient seulement du coup maintenant. C'est une question que du coup on risque de léguer à nos générations futures parce que les déchets vont rester radioactifs pour certains pendant des milliers d'années.
Oui.
Donc aujourd'hui, effectivement, on nous propose une solution. Cette solution de l'enfouissement des déchets radioactifs, enfin on ne la propose pas, on nous l'impose. Aujourd'hui, très clairement, c'est la seule solution qui est envisagée et on a tout misé là-dessus. Alors il y a un laboratoire qui a été créé à Bure dans la Meuse pour commencer à évaluer cette solution. Là, on nous parle maintenant de mettre en place une phase pilote à ce projet pour tenter de voir comment l'installation se comporterait et puis derrière passer en phase industrielle. Alors, on peut pas parler des déchets sans parler non plus de la question du coût. Parce que en matière de coût, la gestion des déchets, ça va être quelque chose de colossal. Alors, à l'heure actuelle, il y a un arrêté qui a été pris par Ségolène Royal en 2015 qui a fixé cette question de la gestion du coût à 25 milliards d'euros. Ce coût est largement sous-évalué. Ça ne répond, en fait, c'est un espèce de coup de compromis entre ce que demandaient les industriels et ce qui a été dit par la Cour des comptes, notamment, ou l'autorité de sûreté nucléaire. Du coup, Ségolène Royal a un peu tranché la poire en deux en disant, bon, voilà, on fixe ce coût arbitrairement à 25 milliards d'euros. Il faut savoir que les industriels ont tout intérêt à ce que ce coût soit évalué le plus faiblement possible parce que, à ce moment-là, ils ont à provisionner le moins possible pour la gestion de leurs déchets radioactifs. Et ce qui se passe, du coup, aujourd'hui, c'est qu'on pense que ce coût est bien trop faible, que ça permettrait certainement de financer seulement la phase pilote du projet CIGEO, mais pas du tout tout le reste, parce que la gestion des déchets radioactifs, elle va au-delà de cette question de CIGEO, et que du coup, ce serait bien sûr après derrière aux contribuables français de payer la note.
Ça, c'est pour les coûts, effectivement, la dimension économique du problème. Maintenant, sur la dimension technique, j'y reviens. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas le choix, mais est-ce que c'est pas quand même la meilleure solution, même si d'un point de vue philosophique, c'est très contestable hein, de laisser sous la terre comme ça un héritage à nos futures générations. Mais enfin, d'un point de vue technique, est-ce que c'est pas la meilleure solution, quand même?
Alors déjà,
de les enfouir au plus profond de la terre.
Déjà, nous, au niveau de notre association, c'est vrai que la première solution, celle qui nous paraît indispensable, c'est d'arrêter de produire des déchets, en fait, et donc de sortir du nucléaire.
Certes, mais enfin, bon, pour l'instant, on n'arrête pas d'en produire. Donc c'est pour ça que là, je suis très concret, très terre-à-terre, et terre-sous-terre même. Alors, c'est pas la meilleure solution.
Il faut se dire que pendant un temps, on a aussi pensé que la meilleure solution, c'était de les jeter à la mer. Donc, voilà, on n'a pas forcément beaucoup de recul sur les solutions. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est que ça présente un certain nombre de risques, qu'il y a de plus en plus d'experts qui se prononcent contre cette solution-là, parce que une fois que les déchets sont enfouis à 500 mètres de profondeur. Si jamais il y a un souci, il y a une impossibilité de les récupérer. Mmh. On sait qu'il y a des risques d'incendie. On ne sait pas comment le sous-sol va évoluer dans l'avenir. Comme je vous l'ai dit, c'est des déchets qui vont rester radioactifs pendant des milliers d'années. Et une autre question qui se pose, c'est aussi comment transmettre la mémoire de ce site aux générations futures. Parce que comme c'est un site qui est censé durer sur des milliers d'années, comment derrière transmettre l'information qu'il y a un site aussi dangereux à 500 mètres de profondeur sous terre? D'autant qu'on peut imaginer que les générations à venir auront peut-être besoin d'aller s'approvisionner en énergie sous terre et donc vont peut-être creuser et vont tomber sur nos galeries de déchets qu'on leur aura refilées.
Vous avez une meilleure solution?
Alors, nous, on ne se prononce pas sur une solution, comme je vous l'ai dit. Nous, on demande tout d'abord qu'on prenne la décision de sortie du nucléaire.
D'accord.
Et après, on peut envisager sereinement les solutions à cette question des déchets. En tout cas,
il y a... Oui, sauf qu'il ne faut pas perdre de temps. Il ne faut pas forcément attendre de pouvoir sortir du nucléaire si on en sort pour penser aux déchets. Il faut y penser maintenant. C'est pour ça que je vous pose la question.
Ce qu'on demande aussi à côté, c'est qu'il y ait d'autres solutions qui soient étudiées. Parce que, comme voilà. Je vous l'ai dit, c'est qu'on s'est entêté dans cette solution de l'enfouissement des déchets radioactifs sans envisager d'autres solutions qui permettraient peut-être une réversibilité. Or, la solution des déchets radioactifs, de les enfouir à 500 mètres de profondeur, ça ne laisse pas d'autre choix. Et si jamais, dans l'avenir, on parvenait à trouver une solution meilleure, eh bien, on ne pourrait pas aller récupérer les déchets une fois qu'ils auront été enfouis à 500 mètres. La différence, c'est qu'il y a certains experts qui parlent de stockage en surface ou en subsurface, ce qui permettrait de les surveiller. Et en plus, derrière, si jamais on trouve une autre solution, de pouvoir passer à autre chose, de récupérer donc les déchets.
Bien, alors sortir du nucléaire, oui, pour ceux qui veulent en sortir, mais comment? Parce que l'énergie nucléaire est une énergie qui apporte une certaine indépendance à la France, c'est pas pour ça qu'il faut pas en sortir, mais si on veut en sortir, il faut quand même une action parallèle. Il faut comment on en sort en prenant en compte aussi le coût, et la complexité et la durée de démantèlement de centrales nucléaires. C'est une problématique importante et très compliquée.
Bien sûr, c'est très complexe. Alors déjà, je reviens sur cette question de l'indépendance énergétique de la France par le biais du nucléaire, qui est en fait un mythe, puisque on n'est pas indépendant. L'uranium, depuis longtemps, il n'est plus sorti des mines de France. On va le chercher au Niger, au Kazakhstan, et on les transporte ensuite par bateau jusqu'en France. Donc déjà... ce n'est pas une indépendance énergétique à partir du moment où la base de fonctionnement de nos centrales, on ne le retrouve pas sur le territoire français. Au-delà de ça, pour l'instant, c'est vrai qu'on...
Bon, ça c'est fait.
Ça c'est fait. La question du kilowattheure pas cher grâce à notre merveilleuse électricité nucléaire, c'est quelque chose qui est faux parce qu'il y a un certain nombre de coûts qui pour l'instant ne sont pas pris en compte en fait dans le coût de l'électricité. Et c'est notamment le cas de toute cette question de la gestion des déchets. Donc c'est quelque chose qui, à un moment donné, il va falloir le payer, il va falloir payer la note. Et du coup, ce sera certainement aux contribuables français de le faire.
Donc, parmi les mythes et les fables, si je vous comprends bien, nucléaire, énergie propre, non. Nucléaire, pas cher, non. Donc, il y a quoi? Il n'y a aucun avantage au nucléaire?
Il n'y a aucun avantage au nucléaire et donc la seule solution c'est d'en sortir et le plus rapidement possible.
Alors, ok, on en sort, mais en même temps il faut développer les énergies renouvelables, on est bien d'accord. L'un ne va pas sans l'autre. Comment on construit ce mécano-là? Comment vous le voyez, vous?
Alors le problème aujourd'hui c'est que le nucléaire continue à capter l'essentiel des subventions en la matière et que du coup il y a très peu d'investissements qui sont faits sur soit la recherche de nouvelles énergies, soit pour investir dans les énergies qu'on connaît déjà et également en matière d'économie d'énergie, de sobriété énergétique. Nous, à sortir du nucléaire, on n'a pas de scénario préétabli, construit sur une sortie du nucléaire.
Mais au moins un principe.
On ne positionne pas là-dessus. Mais il y a des scénarios qui ont été construits par d'autres. C'est le cas de l'association Négawatt, c'est aussi le cas de Greenpeace, qui ont construit des scénarios avec les énergies dont on dispose actuellement. Et qui montre que c'est réaliste, que c'est possible en France de sortir du nucléaire.
Ah bah voilà, ce sera le mot de la fin. C'est possible en France de sortir du nucléaire. Excite Marie Frachis du réseau, sortir du nucléaire. Merci pour tous ces éclairages.
Merci.
Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'incident de la centrale de Blaye, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Bien sûr, rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles de notre site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Et merci à Michel Bézikian qui était à la technique aujourd'hui.